Bonjour à tous les auditeurs de Principe Actif, de retour pour notre émission mensuelle du mois d'octobre. Donc il est 19h01 sur l'antenne de Principe Actif, 102.4 à Évreux. Et puis sur Internet, on oublie toujours les gens qui nous écoutent sur Internet, mais on sait qu'il y en a, et Internet c'est partout dans le monde, en direct sur l'antenne, sur le site donc, de Principe Actif, principeactif.net. Vous cliquez sur le petit curseur, écoutez en direct, et vous nous entendez partout. Voilà. Aujourd'hui pour l'émission, donc autour du micro, il y a Patrice.
Bonsoir.
Françoise.
Bonsoir.
Renan derrière les manettes.
Bonsoir.
Et Didier. Ce soir, comme d'habitude, un sommaire assez chargé. Donc on va essayer d'être à la fois, distrayant et instructif, si on peut dire, par rapport aux droits humains. Donc j'ai oublié de vous dire que c'était le groupe Amnesty International d'Evreux qui vous parlait pendant une heure, bien sûr, tout à fait. Donc on va vous parler de notre sujet de prédilection, c'est-à-dire notre combat pour le respect des droits humains partout dans le monde. Et aujourd'hui, on va peut-être plus se centrer d'ailleurs sur la France, parce qu'on a un dossier assez important qui va vous parler de la situation des Roms en France, sujet d'actualité s'il en est. On a aussi, qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour ce soir? On a un point sur le marathon des signatures. On a une information sur un thème qui est cher à Amnesty, vous en saurez plus tout à l'heure, qui s'appelle « Pas de sécurité sans droits humains ». On a bien sûr les bonnes nouvelles, la spécialité à Renan. On a l'appel à l'action aussi, l'autre spécialité à Renan. On a quelques pauses musicales, bien sûr, pour nous détendre les oreilles. Et puis, on a toutes nos informations locales. On vous en reparlera plus dans le courant de l'émission et surtout sur la fin. On a une actualité locale qui est très chargée ce mois-ci, à la fin du mois et au mois de décembre. On va déjà vous dévoiler quelques secrets, des secrets pour la bonne cause. Voilà, donc on va commencer par la situation des Roms. Vous n'ignorez pas qu'en France, la situation des Roms a fait la une de l'actualité et ces dernières semaines. Et donc, c'est extrêmement préoccupant sur de graves atteintes au niveau de ce qui se passe chez nous. Alors, on va pas vous parler de ce qui se passe en Amérique du Sud, en Russie ou en Chine, mais de ce qui se passe chez nous par rapport au non-respect des droits de ces populations roms et qui habitent chez nous, en général, dans des situations extrêmement précaires. On va commencer par deux citations. Et puis, je vais demander à mes petits camarades, d'ailleurs, s'ils reconnaissent les gens que je cite. La première personne déclarée à Amnesty International, je souhaite que lorsqu'un campement insalubre est démantelé, des solutions alternatives soient proposées. On ne peut pas accepter que des familles soient chassées d'un endroit sans solution. Cela les conduit à s'installer ailleurs dans des conditions qui ne sont pas meilleures. Alors, qui a dit ça? Vous avez une idée?
Geneviève Garrigos?
Non, c'est pas Geneviève Garrigos, c'est la présidente d'Amnesty France. C'était pas mal vu, Françoise, mais c'était pas elle. C'est François Hollande. François Hollande qui avait répondu ça lors du questionnaire aux candidats à la présidence de la République en 2012, envoyé à tous les candidats. Et c'était sa réponse par rapport au campement des Roms. Et je vais faire une autre citation qui date de cette année. Une autre personnalité du gouvernement a dit, je vous aide quand même parce que là, je vous dis que c'est une personnalité du gouvernement, « Des décisions sont prises par la justice, nous devons les suivre même sans solutions immédiates. S'il y a un risque pour la population, pour la sécurité, un risque sanitaire, les expulsions auront lieu. » Les évacuations ne seront pas conditionnées à l'existence de solutions. Bien, bien. C'est effectivement Manuel Valls, le même ministre qui a déclaré aussi que les Roms n'avaient pas, je cite de mémoire, mais je ne me trompe pas, n'avaient pas vocation à s'intégrer en France, qui est quand même une phrase remarquable. Et dans l'exposé qui va suivre, on va vous démontrer exactement le contraire. D'abord, il faut dire effectivement ce que c'est. Alors, c'est la population rome. Est-ce que vous avez une idée aussi? Je vais continuer à interroger mes petits camarades. Est-ce que vous avez une idée sur ce que représente en chiffres la population rome en France à l'heure actuelle?
20 000, 15 000.
C'est entre 15 et 20 000, oui. Et d'après vous, c'est un chiffre qui va augmentant, baissant
Il est stable depuis quelques années de mémoire.
Bien redondant. Effectivement, c'est un chiffre qui n'évolue pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ces Roms qui, effectivement, sont quasiment tous, pour leur grande majorité, dans des campements extrêmement précaires chez nous. On voit leurs droits, de par ce fait-là, de par leur situation extrêmement précaire, voient leurs droits extrêmement bafoués. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans leur pays d'origine, ils sont principalement, ceux qui sont, viennent en France sont principalement des Roumains, de nationalité roumaine, et également quelques Hongrois, principalement des Roumains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, la principale cause de migration, c'est ce qui a été dit à Amnesty. Amnesty a publié deux rapports, hein, en novembre 2012 et un en octobre 2013. C'est ces rapports-là qui m'ont servi à faire mon intervention de ce soir. Et donc, les Roms expliquent qu'en fait, ils fuient la Roumanie principalement pour des raisons d'extrême pauvreté chez eux. En Roumanie, par exemple, on estime qu'à l'heure actuelle, 25% de la population roumaine vit en dessous du seuil de pauvreté, mais que parmi la minorité rome qui vit en Roumanie, 75% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. On voit qu'il y a une différence d'échelle. Donc, ils viennent chez nous, et ils viennent chez nous de façon informelle, si on peut dire, pour essayer de trouver tout simplement une vie meilleure, de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir avoir un avenir, tout simplement, comme beaucoup de populations migrantes. Comme la Roumanie fait partie de l'Union européenne, la Roumanie a les ressortissants roumains, du moins, ont la possibilité de venir pendant 3 mois en France sans avoir de justification. S'ils veulent rester plus longtemps, la loi précise qu'ils doivent avoir soit un revenu, c'est-à-dire soit avoir un travail, soit avoir de l'argent, entre guillemets, devant eux. Si ce n'est pas le cas, ils sont expulsables. Bon, bien sûr que pour la plupart, effectivement, ils n'ont pas ni travail ni revenu suffisant. Donc, ils se retrouvent dans des campements de fortune, qui est leur principal mode d'existence. Et Amnesty s'est intéressé à cette question-là, puisque ces campements de fortune ne respectent pas les droits fondamentaux. Et ces gens sont victimes d'expulsions forcées. On en a vu de nombreux exemples au cours des mois précédents. Autre chiffre là, que je vais vous demander, c'est qu'est-ce que vous savez combien il y a eu de gens expulsés l'année dernière, c'est-à-dire en 2012 ? Globalement, Rome, mais pas Rome, mais de gens expulsés de la France suite aux mesures gouvernementales, et étatiques et préfectorales, etc. Globalement. Vous avez une idée ? Non ? Bon. Non. Ils me répondent que non, mais ils n'osent pas le dire. Bah,
moi, j'aurais bien dit un chiffre. Mais...
Bah, vas-y, dis.
J'aurais dit dans les 10 000.
Ouais, il y en a eu à peu près 15 000. Il y en a eu à peu près 15 000, ce qui était effectivement très important au niveau des chiffres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au cours des deux premiers trimestres 2013, il y a eu près de 20 000 expulsions, et principalement de Rome, de France, près de 20 000. Donc effectivement, c'est un chiffre qui va en augmentant de façon constante. Bon, alors, qu'est-ce qu'une expulsion forcée ? Bon, la définition qui est donnée par le droit, c'est qu'une expulsion forcée est une atteinte aux droits humains qui consiste à obliger des personnes à quitter contre leur volonté le domicile ou le terrain qu'elles occupent sans aucune protection juridique et hors du cadre d'une procédure légitime. Au terme du droit international, les expulsions, ne doivent être pratiquées qu'en dernier ressort, uniquement après examen de toutes les autres solutions possibles, en réelle concertation avec les occupants touchés. Les autorités doivent les prévenir suffisamment à l'avance et leur proposer des recours juridiques et une indemnisation pour tous les préjudices subis. Elles doivent veiller à ce que personne ne se retrouve sans domicile, ni exposé à d'autres atteintes aux droits humains à la suite d'une expulsion. Les personnes qui ne peuvent pas se reloger elles-mêmes doivent se voir proposer une solution adaptée. Ces garanties s'appliquent en toutes circonstances, que les personnes occupent ou détiennent légalement ou non les terrains ou les locaux où elles vivent. Les gouvernements doivent s'abstenir de procéder à des expulsions forcées et ils n'ont pas le droit de recourir à de telles actions à des fins punitives. Bon, ça, c'est la définition légale d'une expulsion forcée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a signé un certain nombre d'engagements au niveau des pactes internationaux qui régissent les droits humains et les droits économiques et sociaux. Autre question, vous n'êtes pas sans ignorer que la France a signé le PIDESC. Alors, c'est quoi le PIDESC ? On en parle régulièrement au sein d'Amnesty.
Là, je laisse Françoise répondre.
Tout le monde se regarde. Françoise, la définition du mot PIDESC.
Elle n'est pas là, éditeur.
Françoise sèche. Bon, c'est pas grave.
C'est le pacte
international relatif aux droits économiques
et sociaux.
Droits économiques, sociaux et culturels. Bon. Alors, dans le cadre de cette signature, la France, donc l'État français, est légalement tenu de respecter, protéger et assurer la réalisation du droit à un logement suffisant inscrit à l'article 11 de ce même pacte. Au terme de l'article 2 de cet instrument, donc le pacte, la France doit assurer le plein exercice des droits reconnus dans le pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. Avant toute expulsion, les États doivent veiller à ce que toutes les autres solutions possibles soient envisagées en concertation avec les intéressés, afin d'éviter le recours à la force ou au moins d'en limiter la nécessité. En outre, dans le souci de protéger les personnes des expulsions forcées, les États doivent mettre en place des garanties de procédure appropriées, telles que la possibilité de consulter véritablement les intéressés, un délai de préavis suffisant et raisonnable à toutes les personnes concernées, des informations sur l'expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournie dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées. La présence, en particulier lorsque des groupes de personnes sont visés, des agents du représentant de l'État lors de l'expulsion. L'identification de toutes les personnes exécutant l'arrêté d'expulsion. L'interdiction de toute expulsion partant particulièrement mauvais ou de nuit, à moins que les intéressés n'y consentent. L'accès aux voies de recours prévues par la loi. L'octroi d'une aide judiciaire, le cas échéant, aux personnes qui en ont besoin pour introduire des recours devant les tribunaux. Bon, on voit bien effectivement que dans toute cette liste qui est énoncée, la majorité de ces droits ne sont pas respectés. Les gens ne sont pas prévenus, dans la majorité des cas, ça c'est les enquêtes d'Amnesty et les rapports qui ont été publiés le montrent. Les gens sont mis à la porte de leur campement précaire, on pourrait dire du jour au lendemain, sans plus de préambule. Les forces de l'ordre parfois interviennent dans les camps pour dire « vous risquez d'être expulsé », mais ne précisent pas quand cette expulsion va être faite. Bon, ce qui a été dit à Amnesty par les préfets qui ont fait des expulsions, c'est de dire « on ne veut pas donner les dates parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des émeutes ou des mobilisations de soutien autour de ces populations-là, donc on ne donne pas de date ». Donc effectivement, non respect des procédures, etc., etc. Il y a un autre texte qui a été signé aussi par la France, qui est le CDESC. Alors là, j'ai plus la définition. En fait, c'est le comité pour les droits économiques et sociaux. Bon, effectivement, qui précise que les États parties doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en cas d'expulsion afin d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés. L'absence de sécurité d'occupation est l'une des causes principales des expulsions forcées. Bon, alors ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est que expulser les gens à répétition sans respecter la procédure, c'est-à-dire, en gros, sans leur proposer de solution alternative de relogement, sans les prévenir, sans leur rappeler leurs droits, c'est-à-dire le droit, effectivement, d'avoir des recours juridiques, y compris de porter plainte par rapport au fait qu'ils sont mis dehors de leur campement informel. Encore une fois, ce sont des obligations légales que la France ne respecte pas. Tout ça aboutit effectivement à une précarisation encore plus grave de ces gens-là. Et donc, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, ces Roms sont déjà dans des conditions de logement absolument épouvantables, avec des conditions de santé qui sont elles aussi épouvantables, avec une scolarisation pour leurs enfants qui est extrêmement compliquée. Je rappelle aussi que la France, quand même, dans ses textes, dit que la scolarisation des enfants est une obligation, quelle que soit la situation de l'enfant. Il n'est pas question pour un enfant qu'il soit en séjour légal ou pas légal en France, etc., etc. L'État français a obligation pour les enfants de les scolariser. Bien évidemment que là aussi, vis-à-vis d'eux, ce n'est pas ou très très peu respecté. Donc, ça ne fait que ces expulsions qu'envoyer les gens dans d'autres campements de fortune qui vont se former un peu plus loin, qui auraient entamé la même procédure de vie précaire, de non-respect de leurs droits, etc., etc. Et pour les enfants, de leur détérioration de leur état de santé, et pour les enfants, de les amener effectivement à recommencer une scolarité chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, à condition même qu'ils la recommencent, ce qui n'est généralement pas le cas. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on peut dire sur le plan général. Après, on va peut-être revenir tout à l'heure sur d'autres, cas un peu plus précis par rapport à cette situation. Mais donc, voilà, ça, c'était la présentation générale de ce rapport d'Amnesty. Ce sont deux rapports, hein, je vous dis, qui sont parus en novembre 2012 et qui s'appellent « Chassés de toutes parts, les expulsions forcées des Roms en Île-de-France ». C'est un rapport que vous trouvez sur le site d'Amnesty, hein, qui est téléchargeable sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Et l'autre rapport qui est sorti en octobre de cette année, qui s'appelle « Condamné à l'errance, les expulsions forcées des Roms en France », qui fait suite au premier rapport et qui reprend un peu les mêmes considérations pour Amnesty. Voilà.
Bon, ben moi, je vais vous parler d'un événement phare qu'on a tous les ans à Amnesty, depuis quelques années du moins. Et l'année passée encore, on l'appelait le « marathon des signatures ». Alors, je vais vous donner un peu l'évolution des cas que l'on a traités au cours de l'année. Mais je voulais vous dire qu'à partir du 18 novembre, cet événement sera intitulé « 10 jours pour signer ». Et là, vous pourrez consulter le site www.10jourspoursigner.org. Donc, ce site sera actif à partir du 18 novembre. Et là, vous aurez 12 cas qui vous seront proposés. Mais je voudrais vous dire que les cas qui vous sont proposés, ceux de l'an dernier et des années précédentes, sont toujours suivis. Et notamment, il y a un cas là qui nous a beaucoup émus dernièrement, puisque nous avions fait une action concernant, on les appelait les trois prisonniers de l'Angola. Donc, ces trois hommes qui ont été longtemps emprisonnés en Amérique. Et C'est Albert Fox, Herman Wallace et un autre qui a été libéré. Eh bien, Herman Wallace était en grande difficulté au point de vue santé. Il a été emprisonné pendant 41 ans. Il s'est toujours déclaré innocent. Et grâce à notre action et au soutien de bon nombre de gens en Amérique, il a été libéré, mais 3 jours avant sa mort. Voilà, il est décédé. Et vraiment, il a livré un testament très émouvant. Et en remerciant les gens, les soutiens, qui lui avait permis de gagner la liberté, mais la liberté, il ne l'a pas eu longtemps, 3 jours. Voilà, donc nous maintenons une action très forte concernant son camarade de prison, si l'on peut dire, c'est Albert Hookfox, et il y a une pétition qui est sur le site et qui se trouve, donc pétition sur le site, que vous pouvez consulter à www.amnesty.fr. Voilà, je vous conseille de faire cette pétition.
Petite information complémentaire par rapport à ce que tu as dit, François, sur les trois prisonniers américains qu'on défend depuis un an, là, par rapport à... Il y en a deux qui sont décédés, non, c'est un qui est décédé pour l'instant. Un qui est décédé, oui. Et un qui a été libéré, je crois.
Un qui a été libéré,
voilà, c'est ça.
Un qui a été libéré,
et le troisième qui est toujours enfermé. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils sont enfermés pour des raisons de crimes, entre guillemets, officiellement, de crimes de droit commun, enfin de délinquance, quoi, en fait, qu'ils ont toujours effectivement contesté. Et Amnesty s'est toujours posé la question en disant que comme ce sont en fait d'anciens militants d'un parti politique américain, les Black Panthers, qui étaient des activistes dans les années 70 par rapport aux droits des Noirs, Amnesty s'est toujours posé la question de savoir si ce n'était pas en fait un arrière-fond, cet activisme politique qui leur a été reproché beaucoup plus que des délits de droit commun. Voilà.
Ensuite, nous avons suivi d'autres cas durant cette année, notamment le cas de Nox Solo en Afrique du Sud. Et un groupe de travail s'est formé autour de son cas. Et donc, la situation évolue un peu. Et on conseille d'écrire au commandant du poste de police de Tsakan. Enfin, vous pouvez aussi trouver les informations sur le site. En concernant les membres du Movis en Colombie, le 17 juillet, 2 hommes armés se sont rendus chez une dame là qui fait partie de ce mouvement. Elle était absente. Ils ont menacé sa fille. Le 24 septembre, ils ont reçu d'autres menaces. Donc, aussi, il y a des courriers à faire que vous pouvez trouver sur le site. Les membres du Centre pour les défenseurs des droits humains en Iran. Bon, on conseille d'envoyer des messages de solidarité, mais on n'a hélas rien de nouveau. Concernant le Soudan, les membres du Jirifna, le 22 septembre, le gouvernement a annoncé la levée des subventions sur les carburants, mais ça indique donc que les prix vont augmenter. Donc il y a eu des manifestations, il y a eu 50 personnes tuées, 1000 blessés. Et on demande aussi d'écrire au ministère de l'Intérieur. Concernant le cas de Chine, de Gao Xingshen, rien de nouveau, donc on conseille aussi de continuer à écrire. Concernant les familles roms de la rue Costaï en Roumanie, il y a un nouveau rapport dont vient de vous parler, dont vous a parlé Didier, où il va vous parler. Il y a une nouvelle action. Il y a eu quand même 10 000 signatures en France de recueillies par rapport à cette action qu'on fait sur ces Roms en Roumanie. Et au niveau local, on tente une nouvelle action concernant le maire du village en question. Donc, des fois, les choses bougent quand même. Concernant la Libye, les habitants de Taouarga, pas de nouvelle action. On attend un nouveau rapport fait par Amnesty fin octobre sur les problèmes de la Libye. Concernant les habitants de Bodo, au Nigeria, il y a une nouvelle information, à savoir que il y a des transactions faites entre Bodo et Shell de façon à ce que les gens soient un peu indemnisés par rapport à la pollution qui est due à l'usine Shell. Enfin, voilà. En Taïwan, c'est un cas concernant la peine de mort. On espère, le ministre de la Justice précédent est remplacé par une femme et on conseille d'écrire à cette dame et au président souhaitant que ce Taïwanais ne soit pas exécuté. Concernant la Tchétchénie, pas de nouvelles infos, donc pas d'action pour le moment. Concernant l'Égypte, pas de nouvelles infos non plus concernant ce cas. Mais vous voyez que certains cas ont évolué aussi. Alors je vous conseille fortement, quand sortira le nouveau marathon, disons, qui s'intitulera « 10 jours pour signer », de consulter le site de façon à activer cette lutte pour ces gens privés de leur liberté bien souvent.
Oui, le marathon a toujours lieu, enfin 10 jours pour signer, ex-marathon des signatures, c'était l'ancien nom, a toujours lieu en fait la semaine autour du 8 décembre parce que c'est le jour anniversaire de la Déclaration universelle, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 8 décembre 48, si je ne m'abuse. Voilà.
Tout à fait.
Donc ça a lieu effectivement dans la semaine qui entoure cette date. Je crois qu'on va faire une petite pause musicale après toutes ces informations et on se retrouve juste après. Oui, de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe Amnesty International d'Evreux. Pour ceux qui ont raté le début de l'émission, mais on a les noms de ceux qui n'étaient pas là, hein, donc voilà. le musique qu'on vient d'entendre, le morceau de musique qu'on vient d'entendre, c'est Sting. Ça rappellera des choses à des gens qui ne sont pas forcément parmi les plus jeunes, mais enfin qui est quand même quelqu'un de connu, qui est un militant et un activiste pour Amnesty depuis très très longtemps, Sting. Et son morceau s'appelait « History will teach us nothing », ce qui veut dire que l'histoire ne nous apprend rien et ça parlait des droits de l'homme.
Je crois que j'ai raté dans l'enchaînement, je suis désolé. Mais...
C'est pour les anglicistes. Ah bon ? T'as raté dans l'enchaînement ?
Non, mais ça marche bien, t'inquiète pas, qu'on continue.
Je ne sais pas, le technicien a fait un commentaire, je ne sais pas. Bon, il y a Patrice qui va nous parler effectivement de... Bah, c'est Patrice qui va vous le dire d'ailleurs de ce dont il va vous parler. Vas-y.
Eh bien, bonsoir, bonsoir. Eh bien, je vais vous parler d'un thème, là, cher Amnesty, comme on disait tout à l'heure, pas de sécurité sans droits humains. Bien sûr, hein, la sécurité, les États peuvent fixer des règles, mais il faut que tout ça se fasse dans le respect des droits humains. On a relevé quelques points, sujets, et on va développer un peu ça. Concernant l'Europe... Alors, le Parlement européen a adopté le 10 octobre dernier une résolution dans laquelle il appelle à la vérité et à la justice quant à la participation des pays de l'Union européenne dans les programmes de restitution et de détention secrètes menés par la CIA. On parle de l'agence des USA, hein, CIA bien connue. J'ai un petit sigle qui m'ennuie, là. Le bureau international d'Amnesty International.
Excuse-moi, Patrice, parle un peu plus près du micro,
d'accord.
S'il te plaît.
C'est bon, je me rapproche. Le bureau international d'Amnesty International a mené un important travail de plaidoyer envers les parlementaires. La Lituanie occupe actuellement la présidence du Conseil de l'Europe. Voilà. Et a jusqu'alors refusé de mener de nouvelles enquêtes sur les activités de la CIA, toujours la CIA, dans les sites noirs situés sur son sol. Oui. Action en direction de la Pologne, pétition en cours. Bon. USA, à nous. Voilà. Action de solidarité Guantanamo. Message de solidarité aux détenus. Voilà. Changeons de continent. Au Mali, pétition envoyée au ministre de la Défense de l'époque. Chercheur d'Amnesty envoyé sur place. Situation très instable au nord. Tombouctou, Gao. Situation va devenir plus tendue à l'approche des élections législatives le 24 novembre. Le niveau. Russie et Caucase du Nord. Nouvelle du procès de Rasoul Kondaïev. Procès toujours en cours. Verdict pourrait tomber en novembre. Nouvelles actions à ce moment. À ce moment-là. D'accord. Et encore, campagne halte à la torture gouvernementale devrait commencer en mai 2014.
N'aie pas peur de ton micro, hein, Patrice, oui. Hein, tu fais comme si c'était une glace. Excuse-moi de te dire ça, mais tu t'éloignes du plus en faisant ton micro.
Patrice n'a pas beaucoup l'expérience de l'outil radiophonique, donc c'est pour ça.
Excusez. D'accord.
Bon, moi, je vais faire une petite... C'est bon, Patrice, tu as terminé ton... Donc, je vais faire une bonne nouvelle. Donc, déjà, j'ai une nouvelle rubrique. Bon, qui n'est pas une rubrique. C'est chaque mois, j'essaie de vous lire. C'est ce qui s'appelle un message d'espoir. Je veux vivre dans un monde où la scolarité obligatoire et gratuite sera accessible partout pour tous les enfants, faisant en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin. Donc, c'est l'extrait du discours du mardi 17 septembre de Malala Yousafzai, une écolière pakistanaise militant en faveur du droit à l'éducation et le roi 2013 du prix ambassadeur de la conscience. Donc tous les mois, j'essaierai de vous sortir comme
ça. Mais on en avait parlé la dernière fois déjà de ça, Rodon.
Oui, mais j'avais pas lu le passage.
D'accord.
Effectivement.
On l'avait déjà cité, effectivement.
Tout à fait.
Et elle a eu depuis le droit, c'était le prix Sakharov, c'est ça, le prix du.
Oui.
Elle a eu le prix Sakharov des droits humains depuis.
Tout à fait.
C'est le Malala en question.
Je vois que tu suis bien.
Bah oui, bien sûr. J'ai remarqué aussi, d'ailleurs, quand ils parlaient d'elle au journal télévisé, qu'ils n'ont quasiment jamais cité le fait que juste avant, elle avait eu le prix d'Amnesty, d'ambassadeur des droits humains. Mmh. Ils ont toujours parlé de l'autre, mais jamais de notre prix à nous. Bon, tant pis, on ne leur en voudra pas.
Non, on en parle ce soir, nous.
Voilà.
On en parle ce soir. Donc, j'avais une bonne nouvelle aussi concernant Israël. Donc, la Haute Cour de justice vient d'envoyer un message clair au gouvernement et au corps législatif israélien en jugeant inconstitutionnelle la loi sur la prévention de l'infiltration. Alors, est-ce que quelqu'un de vous sait ce que c'est cette loi sur la prévention de l'infiltration en Israël ?
Non.
Ben, la pas aussi, le fait que...
Ah, moi, j'ai la réponse. Hein.
C'est François. C'est François qui sait.
De gagner les colonies, d'envahir les colonies.
Non.
Les territoires palestiniens.
Non. Cette loi adoptée en 2012 permettait au gouvernement israélien d'emprisonner tout réfugié pendant une période de 3 ans ou plus, sans charge ni procès. Elle permettait de placer automatiquement en détention, je retourne ma page, en détention quiconque, notamment des demandeurs d'asile et qui étaient entrés sur le territoire israélien sans permission. Ah. Était tout particulièrement visé ceux qui pénétraient en Israël via la frontière égyptienne. Donc en fin de compte, on pouvait les condamner, comme ils disent, 3 ans, mais jusqu'à... En fin de compte, il n'y avait pas d'aide. Donc, une bonne nouvelle, c'est que la Haute Cour de justice, elle condamne cette loi. Donc, je passe la parole à... Non, il y avait... Parce que là, je suis un peu perdu dans le fil. Je ne vous cache pas que je suis un peu perdu. Bah, Didier, tu avais une deuxième partie, je crois.
Oui, par rapport au Rhum, j'avais dit tout à l'heure, effectivement, qu'on allait continuer. Bon, en fait... Ah donc j'essayais de vous montrer dans mon intervention de tout à l'heure que l'ensemble des dispositions ou des non-dispositions prises par l'État français sont une accumulation effectivement de violations des droits de ces populations et que ça a des conséquences, comme je vous disais, en termes de conditions de vie qui sont extrêmement désastreuses dans ces campements de fortune, que ça a des conséquences en termes aussi de santé. Et que ça a des conséquences en termes de santé, puisqu'en fait, ces gens-là, effectivement, ont difficilement la possibilité de se soigner, si ce n'est avec des associations, genre Médecins du Monde, qui organisent des permanences de soins, mais ça ne permet pas, loin de là, de résoudre tous les problèmes. Ce qui est aussi tout à fait contradictoire, ce qui est souligné dans le dossier d'Amnesty, ce qui est tout à fait contradictoire avec le fait que, par exemple, on cherche à faire ici des économies pour la sécurité sociale, puisque en fait les dossiers médicaux qui sont faits pour ces gens-là soit ne perturbent pas dans le temps, soit ne sont pas soit sont perdus quand les gens sont expulsés de leur campement et donc on est obligé de reprendre les examens médicaux qui les suivent à zéro et de recommencer tout, enfin etc. Donc c'est un double coup, y compris pour la collectivité française. C'est complètement absurde par rapport effectivement à ce qu'on devrait faire. Ça permet pas une scolarisation correcte, loin de là, des enfants. Donc ça, c'est pour les principales têtes de chapitre qui sont des atteintes à leurs droits fondamentaux. Et ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est que de toute façon, quand M. Valls dit que ces populations-là n'ont pas vocation à s'intégrer, il faut bien voir, effectivement, que c'est tout à fait contradictoire au fait qu'on les empêche de s'intégrer. Parce que de toute façon, ces mesures-là, effectivement, ne permettent pas de mener une vie, entre guillemets, normale, avec un travail, en essayant de trouver un travail, etc., et de s'intégrer. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les discours des gens qui ont été interviewés dans ces campements-là par Amnesty, le discours principal qui ressort, c'est de dire « mais nous, on veut effectivement avoir une vie décente, on veut essayer de rester ici, dans des conditions normales de vie, avec un appartement, avec un travail, et on demande pas la charité, on demande simplement d'avoir des conditions décentes d'existence. Donc il n'est pas question d'avoir vocation à s'intégrer, ce qui d'ailleurs a un arrière-goût de racisme. Quand même, il faut quand même appeler un chat un chat. Une population qui a vocation à quelque chose, c'est quand même quelque chose qui rappelle des termes extrêmement malheureux en termes de présupposés vis-à-vis des ethnies ou des races, considérant que les races n'existent pas, mais enfin par rapport aux ethnies, et que ce genre de commentaire est effectivement extrêmement... au moins déplacé, au pire, disons, visant à, comment dire, à caresser dans le sens du poil un certain électorat. Donc, extrémiste de droite, pour ne pas les nommer. Donc, effectivement, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'il faudrait faire sur un tas de plans. Et en fait, ça coûte beaucoup plus cher à l'État français que si on cherchait, effectivement, à offrir à ces gens-là des conditions de vie décentes. Donc, et j'en terminerai là, Amnesty a proposé dans ses rapports un certain nombre de préconisations pour faire que, effectivement, la situation de ces gens-là s'améliore dans le bon sens. Et il y a un petit résumé qui fait partie du deuxième rapport que je vais vous lire. Donc, le deuxième rapport qui est paru en octobre 2013 et qui s'appelle « Condamné à l'errance et expulsions forcées des Roms en France », je vous rappelle le titre. Et les principales préconisations d'Amnesty, je vous les résume très, 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 très rapidement. Mettre en place des garanties effectives contre la pratique des expulsions forcées. Enjoindre au préfet d'appliquer la circulaire du 26 août 2012. Bon, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est une circulaire qui a été prise par le gouvernement actuel qui disait qu'effectivement, il fallait consulter les populations avant les expulsions, mais que ça n'avait pas de caractère obligatoire. Enfin, disons que ça prêchait un peu, ça cherchait à ménager la chèvre et le chou par rapport à ce qui est fait vis-à-vis d'eux. Donc, enjoindre au préfet d'appliquer cette circulaire et amender cette dernière afin qu'il inclue des mesures de protection suivantes. S'assurer que personne ne soit rendu sans abri à la suite de toute évacuation de campements informels et proposer des solutions d'hébergement et de relogement convenables à tous les habitants plusieurs jours avant le début de l'opération d'évacuation. Interdire les évacuations durant la trêve hivernale. S'assurer qu'une véritable consultation ait lieu avec les personnes concernées et qu'elles puissent elles-mêmes proposer des solutions alternatives. S'assurer que les personnes concernées reçoivent des informations suffisantes sur l'opération d'évacuation dans un délai raisonnable. Garantir l'accès aux services essentiels de base pour la dignité des personnes habitant dans des campements informels, comme l'approvisionnement en eau, le ramassage des ordures et l'accès à des installations sanitaires suffisantes. Garantir l'accès et la continuité des droits à l'éducation et à la santé. Donc ça reprend un peu tout ce qu'on avait vu avant de façon très schématique. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que Amnesty France continue cette action-là vis-à-vis du gouvernement français, donc action de lobbying par rapport aux élus, par rapport aux ministres, par rapport au cabinet ministériel, par rapport aux députés. Et il vient de... Là, je vous donne l'information. Je pense que le groupe d'Evreux, on en parlera à une prochaine réunion, mais je pense que le groupe d'Evreux va le faire. Du moins, moi, je le proposerai. Il y a une lettre type qui a été faite, qui a été mise sur le site aujourd'hui, à l'attention des groupes. Une lettre type à envoyer au maire avec, en y joignant effectivement ce deuxième rapport d'Amnesty pour discuter avec les maires qui ont aussi une autorité par rapport aux expulsions et aux gens qui circulent et qui demeurent sur les communes. Demander aux maires effectivement quelle est leur position et quelle est leur appréciation des camps informels occupés par les populations roms. Donc je pense que nous on va faire aussi, enfin on verra, mais je pense qu'on fera cette action-là. Donc ça montre bien effectivement qu'Amnesty intervient pas seulement sur l'aspect mobilisation de la population, mais aussi sur l'aspect de mobilisation des élus, des autorités effectivement pour faire bouger les choses. Bon, je terminerai simplement avec deux petites remarques, c'est que il est dit dans ce rapport que là où les expulsions se passent entre guillemets moins mal, elles se passent jamais bien, mais où elles se passent moins mal et où les recours, y compris des recours juridiques faits par les gens qui sont expulsés, ont lieu, c'est quand des associations ou des collectifs d'associations s'en occupent. S'il n'y a pas de mobilisation du public, effectivement, les expulsions se passent manu militari, de façon très discrète et avec un encore plus grand mépris du respect de ces populations. Donc, quand les choses s'améliorent un peu, entre guillemets, c'est quand il y a des collectifs qui se créent. Là, un petit coup de chapeau à nos copains du Havre, d'Amnesty Le Havre, s'ils nous écoutent, parce qu'effectivement, ils sont mobilisés tout l'été dernier contre l'évacuation d'un campement rom au Havre.
Ils ont fait un très bon boulot.
Voilà, qui malheureusement n'a pas pu être évité, mais qui a quand même permis effectivement de faire, avec un collectif qui s'était créé, extrêmement de rencontres avec les officiels et de secouer le cocotier pour la bonne cause, si on peut dire. Vous trouverez leur rapport sur le site, j'ai pas le site en tête, mais vous tapez campement rom Amnesty Le Havre sur Google et vous tomberez sur le rapport qui est en ligne, qui était un document extrêmement précis et extrêmement précieux. Donc ça montre bien qu'on se mobilise à tous les niveaux. Et la dernière chose, je parlais tout à l'heure des commentaires de M. Valls par rapport au fait qu'il est dit que les populations roms n'avaient pas vocation à s'intégrer en France. On parlait aussi des partis extrémistes, alors on va les nommer, hein, parce qu'il ne faut pas être hypocrite, hein, c'est le Front National. Je signale quand même, parce que je suis allé voir, ça fait encore j'y vais à peu près une fois par an sur le site du Front National, je fais un gros effort hein, pour y aller. Mais voir effectivement ce qu'il disait par rapport à cette politique d'intégration, il parle des Roms, mais dans un ensemble général de mesures qui sont effectivement extrêmement péjoratives, pour ne pas dire racistes. Et il y a une petite chose qu'il faut savoir, et que si les gens veulent voter pour eux, effectivement, il faut l'avoir en tête, hein, c'est qu'il est précisé dans le programme du Front National que le travail de tout collectif de soutien à ces populations-là, au programme des populations migrantes en situation plus ou moins illégale, entre guillemets. Le travail de tout collectif, toute subvention et autres versées à ces associations et toute manifestation, si jamais ils arrivaient au pouvoir, serait interdite. Donc, effectivement, quand Mme Le Pen, pour ne pas la nommer non plus, parle de respect de la démocratie, eh ben, je suis désolé, c'est non, puisque déjà dans leur programme, il y a des mesures qui sont fondamentalement antidémocratiques. Voilà, donc ça, c'est tout. Il faut aussi l'avoir présent à l'esprit. On va peut-être revenir à des choses un peu plus pas tristes.
Oh non, Pierre.
Voilà.
Allez.
Une petite bonne nouvelle.
Oui.
Une petite bonne nouvelle concernant la Tunisie. Donc, l'adoption d'un mécanisme pour la prévention de la torture donne l'espoir d'un avenir sans torture. En adoptant une loi créant l'instance nationale pour la prévention de la torture, la Tunisie met ainsi en œuvre les obligations du protocole facultatif à la Convention contre la torture, l'OCCAT, moi aussi j'ai des abréviations ce soir, ratifiée par le gouvernement transitoire en juin 2011, faisant la Tunisie le 60e État parti au protocole. Et la Tunisie devient ainsi le premier pays dans le monde arabe à créer un mécanisme national de prévention et le 5e dans le continent africain, et ce en vertu du droit international et des droits humains.
On fait une pause musicale. Allez, quelques notes de musique très courtes. On va peut-être pas, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais quelques notes de musique. Bon, c'était REM, donc il y a un groupe aussi qui a soutenu Amnesty aussi à différentes occasions et sur un titre qui s'appelait Man on the Moon. Patrice a quelques mots à nous dire à propos de Lampedusa, puisqu'on parlait de population migrante avec les Roms tout à l'heure. Donc je crois qu'il y a quelques mots à nous dire à propos de Lampedusa et du drame qui s'est produit fin septembre, début octobre.
Voilà, c'est un texte d'Amnesty. Tragédie de Lampedusa. Il est temps d'agir pour empêcher d'autres pertes humaines. Amnesty International appelle l'Union européenne et les gouvernements européens à prendre des mesures vigoureuses afin de prévenir de nouveaux décès en Méditerranée, de protéger les droits humains des migrants et des réfugiés. La dernière tragédie du naufrage au large des côtes de Lampedusa met en évidence à nouveau la nécessité d'un changement fondamental dans les politiques européennes en matière de migration. Les États ont systématiquement exclu du cœur de leur politique des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les ressources ont été de plus en plus allouées au contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne au détriment de la protection des personnes et de la sauvegarde des vies. L'Union européenne et les pays européens doivent revoir leur manière de répondre aux défis posés par les flux migratoires afin d'inclure une analyse de l'impact sur les droits humains des politiques actuelles visant à contrer les migrations irrégulières, les conflits, les violations des droits humains, l'instabilité politique et les inégalités exacerbées sont les principaux facteurs qui poussent les personnes à fuir ou à émigrer depuis toutes les régions du monde. Les politiques restrictives en matière de migration qui visent uniquement à empêcher les arrivées en Europe ne dissuadent pas les personnes d'essayer d'atteindre l'Europe. Elles ne font que les forcer à choisir des itinéraires plus dangereux et les poussent de plus en plus à confier leur sort à des passeurs et à des trafiquants. Il est temps que l'Union européenne et les gouvernements européens reconnaissent leurs responsabilités. Amnesty International appelle l'Union européenne et les gouvernements européens à prendre rapidement des mesures dans les trois domaines suivants. Opération coordonnée par Frontex en mer. L'UE est actuellement en train de négocier des règles concernant les opérations d'interception menées en mer par Frontex. Frontex est une agence des frontières de l'Union européenne. Ces règles visent à coordonner les obligations en matière de recherche et de sauvetage dans le cadre des opérations coordonnées par Frontex et d'améliorer les garanties pour les migrants et les demandeurs d'asile interceptés en mer au cours de ces opérations. Les États doivent trouver rapidement un accord sur ces nouvelles règles d'interception pour les opérations en mer coordonnées par Frontex afin de mettre en place les mesures de sauvetage efficaces et coordonnées au niveau de l'UE et de faire en sorte que les opérations soient conduites en conformité complète avec les éléments pertinents du droit international relatif aux droits humains et aux droits des réfugiés, et les normes s'y rapportant, ainsi qu'avec les obligations prévues par le droit de la mer.
Une petite bonne nouvelle, je vois Didier qui allait dire quelque chose.
Non, c'est très bien, vas-y. Pas de soucis.
Non, la bonne nouvelle, c'est concernant le fameux traité TCO, que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé assez ici, c'est le traité par rapport au commerce des armes. Donc c'est juste pour une bonne nouvelle concernant la France, parce que la France, comme on avait dit, l'avait signé, je crois que c'était en avril, et là, la France, elle vient de le ratifier.
Le Sénat, oui.
Tu me coupes avant que je termine. Le Sénat, alors en France, le processus de ratification est bel et bien amorcé. Le 8 octobre, le Sénat adoptait à l'unanimité des présents le projet de loi autorisant sa ratification. Maintenant, le texte a été transmis à l'Assemblée nationale et on pense qu'avant la fin de l'année, on pense qu'il sera ratifié. Donc, voilà. Quand j'ai dit la France a ratifié, parce que bon, il y a des grandes chances qu'avant la fin de l'année, il soit ratifié.
Oui.
Parce qu'en fin de compte, on le signe une première fois et on ratifie. Et en sachant que pour l'instant, il y a 113 États dans le monde qui l'ont signé et il n'y en a que 7 qui l'ont ratifié. Et je crois qu'à ce sujet, je crois que Didier avait un petit commentaire à faire.
Oui, il y a quelque chose qui va un petit peu nuancer quand même ta bonne nouvelle, malheureusement, parce qu'il faut faire preuve de réalisme. C'est une information qui est donnée dans la dernière chronique. Je rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France, hein, dont on vous recommande la lecture. Vous pouvez vous abonner, même si vous n'êtes pas membre du mouvement. Vous pouvez vous abonner en allant sur le site à www.amnesty.fr. Il y a des formulaires d'abonnement à remplir en ligne. Et donc, dans la chronique du mois d'octobre, c'est la présidente qui a fait le commentaire suivant. Le 11 septembre, le ministre de la Défense présentait le rapport sur les exportations d'armement de la France au Parlement, publié fin juillet ce dernier, comme les 13 précédents, et criant par ses insuffisances. Alors, la France signe des accords, là, c'est moi qui parle. La France signe des accords, mais après, elle continue à exporter quand même. Un rideau de fumée qui ne fournit aucune justification, aucune explication sur les exportations de matériel de défense qui pourraient être utilisées contre les populations civiles lors de conflits armés. Bon, l'exemple qui est pris, je ne vais pas tout vous lire, mais qui est pris dans l'article par Geneviève, c'est la vente d'armes à l'Égypte. Et certaines de ces armes auraient servi aux massacres qui ont eu lieu le 15 août, massacre d'Égyptiens qui soutenaient le président qui avait été destitué juste avant, et que donc un certain nombre de camions militaires vendus par la France juste avant auraient servi à ces opérations. Donc évidemment, Geneviève pour Amnesty s'inquiète du double, on peut dire en gros du double langage des autorités françaises, et elle regrette aussi que il y avait des questions posées par les parlementaires suite à ce rapport, donc le rapport sur les exportations d'armement de la France, des questions posées par des parlementaires. Or, à cette séance de questions des parlementaires, il n'y avait quasiment personne au niveau des élus qui était présent. Ce qui veut dire que, visiblement, l'attitude de la France qui continue à exporter des armes intéresse assez peu nos élus. Par contre, ça peut intéresser peut-être davantage les gens qui reçoivent des balles.
Tout à fait.
C'était un commentaire que je me suis permis d'ajouter.
Personnel, mais tu as droit.
Françoise.
Oui, simplement une information concernant une intervention là à la médiathèque le samedi 9 novembre à 14h30. Il y aura Scolastique Mukasonga, auteur d'origine rwandaise, qui a été invité au festival Passage de témoins à Caen en mai, puis au festival de la francophonie à Nice en juin 2013, qui a été récompensé par le prix Renaudot en 2012 pour un bouquin qu'elle a écrit intitulé « Notre-Dame du Nil ». Cette dame vit dans la région de Caen. Elle a été exilée en 1973, donc venant du Rwanda. Et c'est son premier récit autobiographique. Voilà, donc elle vous parlera à cette occasion de sa vie et des problèmes qui a eu lieu au Rwanda, entre les Tutsis et les
Hutus.
Les Hutus, c'est ça. Voilà. Donc, je vous conseille cette conférence samedi 9 novembre, 14h30, à la médiathèque.
Quand François parle de problème, c'était un génocide, en fait. Donc, c'était un gros problème. Ouais. Pendant que tu parles d'informations, on peut peut-être en profiter pour donner aussi nos informations locales, puisque tu as parlé d'initiative de la médiathèque, ce en quoi tu avais tout à fait raison. Nous, on a une information qui est très chargée. Donc, on a plusieurs rendez-vous à vous donner avant que l'émission se termine. On va se retrouver, pour ceux que ça intéresse, et j'espère que ce sera le cas pour tous ceux qui nous écoutent, le 22 novembre à la chapelle de la Cave Bouddha. C'est une pièce de théâtre dont nous sommes partenaires, qui est organisée par la scène nationale Évreux-Louviers. Nous sommes modestement partenaires, avec d'autres associations d'ailleurs, qui seront présentes aussi en même temps que nous. Et la pièce s'appelle « La forêt où nous pleurons » et ça traite de la violence faite aux femmes. On a déjà l'occasion de parler de la violence faite aux femmes dans d'autres émissions du groupe ici sur l'antenne de Principe Actif. Je vous rappelle que c'est un des thèmes d'action d'Amnesty France sur la France, la violence faite aux femmes, qui a commencé en 2005 et qui continue. Effectivement, ce n'est toujours pas terminé, bien évidemment. Donc ça, c'est le 22 novembre, la chapelle de la Cave Bouddha à 20h.
À Évreux.
La forêt où nous pleurons. Une autre pièce aussi présentée par la scène nationale Évreux-Louviers. Le lundi qui suit, donc là ça va être 25. Coup sur coup, le lundi 25, à partir de 20h au Cadran. Donc les Cadrans, là, inutile de présenter, hein, c'est le Palais des Congrès hein, qui est à côté du Bel et Bas, tout le monde connaît. Et la pièce s'appelle, je ne parle pas du tout espagnol et Sabine n'est pas là ce soir, mais de mémoire, je vais vous dire, parce que sur mon agenda, je n'avais pas noté le titre en espagnol. Oh. Et ça doit s'appeler El Ano en Kenachi.
Alors vous
El Año en Kelanchi, oui, ça va être ça, effectivement. J'ai su la traduction récemment hein, par la scène nationale qui m'a dit ça veut tout simplement dire en quelle année suis-je né.
Oui.
Et bon, en fait, cette pièce traite du Chili et de la dictature au Chili dont nous avons malheureusement fêté, entre guillemets, mais commémoré, c'était en 73, donc vous calculez vous-même, hein, ça doit faire le 40e anniversaire.
Tout à fait.
Du renversement du gouvernement de Salvador Allende par la junte militaire de Pinochet, et le massacre d'environ au moins 3500 à 4000 Chiliens, etc., etc., les déportations de beaucoup de gens. Et donc, c'est une pièce qui traite de ce thème-là, mais à travers le regard qu'ont les enfants, les jeunes générations chiliennes, par rapport à cet événement-là. Donc voilà, on sera présent, on aura un stand d'information, et on espère vous y retrouver, effectivement. Donc ça, c'est le lundi 25 novembre, 20h, au Cadran, à Évreux. Et autre rendez-vous important, le 1er décembre, donc juste après, quand je vous disais que notre actualité effectivement se suivait là, de façon très intensive, le samedi 1er décembre, c'est le jour de l'expo artisanale Foire aux Livres à la Halle des Expositions.
Le dimanche.
Le dimanche, j'ai dit quoi ?
Dimanche.
Ah, j'ai compris le samedi.
Ah, mais non, c'est le dimanche, hein, je persiste. Bon, alors si j'ai dit samedi, je suis désolé, mais c'est bien le dimanche 1er décembre, de 10h à 19h, à la Halle des Expositions, Expo Artisanale et Foire aux Livres. Bien sûr, les actions d'Amnesty vous seront présentées aussi, le matériel de soutien d'Amnesty. Venez nous voir, n'hésitez pas. Aussi bien pour nous soutenir, pour venir faire vos emplettes sur la Foire aux Livres. On aura beaucoup de bouquins à présenter à des prix très modiques. Et aussi pour soutenir les artisans qui font le plaisir de venir en soutien pour Amnesty Évreux. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.
Mais
t'as
oublié une date
oui.
entre les deux qui était la date du 26. Alors, il y a quoi le 26 ?
La date du 26.
Ah ouais, je le vois dans son agenda, mais je crois que tu peux le chercher longtemps, le 26. Qu'est-ce qu'il y a le 26 ?
Le 26.
Alors, c'est un mardi.
Oui, c'est la prochaine émission de radio.
Bien joué.
C'est la prochaine émission de radio.
Je voulais t'avoir.
Effectivement. Donc, ça veut dire que le vendredi, on milite pour Amnesty. Le lundi, on milite pour Amnesty. Le mardi, on fait de la radio. Le dimanche, on est à la Halle des Expos.
Et je pense que le mardi.
Qui est-ce qui a dit qu'Amnesty Évreux ne faisait rien.
Je pense que le mardi, justement, 26, on pourra pas parler en long, en large, justement, de notre manifestation.
On reparlera de l'expo, oui. Enfin, à moins que Patrice ou Françoise vouliez dire un petit mot par rapport à ce que je viens de dire. N'hésitez pas.
Ah non, on est d'accord.
N'hésitez pas.
Non.
Je rappelle que le but de l'expo, il est double, hein, parce qu'il faut dire clairement les choses. Il est bien sûr de soutenir par rapport à nos actions militantes, évidemment, qui nous seront présentées, de venir voir. C'est une exposition très agréable aussi à visiter, etc., avec de très jolies choses au niveau artisanal et plein de bouquins.
De maquillage.
Il y aura un stand de maquillage, tout à fait, pour les enfants. Et pour les enfants, et peut-être pour les adultes, d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, c'était plus pour les enfants, a priori. Mmh. Et donc, la vente des bouquins, aussi, donc, qui est faite en soutien pour Amnesty, a aussi pour but, effectivement, de dégager un petit peu de financement pour nous, puisqu'on a quand même quelques besoins financiers très modestes au niveau du groupe d'Évreux, mais on ne peut pas vivre que de l'air du temps. Et je rappelle qu'Amnesty, par souci d'indépendance, ne sollicite et refuse toute subvention, quelle qu'elle soit. Donc on s'autofinance à 100%. Votre participation, y compris financière, pour nous est indispensable.
Et nous acceptons aussi tous les bras, les gens qui peuvent nous aider pour porter des caisses, même les samedis, tout ça. Vous pouvez nous faire signe, on est toujours...
Évidemment. Bon, on va conclure par rapport à un appel à l'action, vite fait, parce qu'il nous reste 3 minutes. Donc, mon petit Ronan, tu mets le turbo, tu nous présentes l'action du bois, que les gens pourront venir signer s'ils sont intéressés. Voilà.
Dessus notre... OK. Donc, l'action du mois, c'est aveu soit torture. Donc c'est une action qui concerne Amar Abad Al-Qadir Mohamed, un Palestinien né en Irak qui a été arrêté à Bagdad le 21 juillet 2006 et détenu en secret pendant plus d'un an. Sur les informations reçues par Amnesty International, il était contraint soit torture à avouer appartenir à un groupe armé et avoir projeté de poser des bombes. Il a été condamné à mort le 17 mai 2011. Au titre de la loi antiterroriste de 2005. Donc, ce que nous demande, c'est d'écrire justement pour reviser son procès, parce que bien sûr, dans le procès, il y a plein d'irrégularités, il a été torturé, les gens, ils sont revenus sur leur témoignage. Donc,
on a parlé beaucoup de droits aujourd'hui, mais il faut rappeler que le fait d'utiliser la torture dans le cadre d'une action judiciaire est strictement interdit par le droit international et que normalement, tous les aveux obtenus sous la torture sont considérés comme nuls et non avenus.
Et surtout que les témoins se sont rétractés depuis. Bon, il y a plein de choses et malheureusement, il est condamné.
Alors, si on veut soutenir, je ne répéterai pas son nom parce que tu l'as trop bien dit tout à l'heure, mais si on veut le soutenir, on fait quoi, Ronan ?
Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse que Françoise va faire un plaisir de nous dire.
C'est l'adresse du mail d'Amnesty Évreux. Donc, vous écrivez, vous envoyez simplement vos coordonnées en disant on veut faire l'action du mois, juste de trois mots, hein, ça suffira.
Ouais, tout à fait.
Avec votre adresse mail et vous l'envoyez donc à amnesty.evreux. Amnesty, c'est amnesty.evreux@gmail.com et on vous renvoie la lettre toute faite avec les informations par retour de mail. Voilà, n'hésitez pas. On va se quitter parce que y a la suite de la programmation de Principes Actifs qui va suivre. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Ronan, tu nous rappelles la date de l'émission ?
C'est le 26, le mardi 26.
Mardi 26.
Allez.
19h en direct sur l'antenne de Principes Actifs.
Allez, bonsoir.
Et les podcasts sont sur le site principesactifs.net. N'hésitez pas. Bonsoir à tous.
Allez, bonne soirée.
Merci.